Radio Kapi. Le journal Passion Sengalou Lambombo à la présentation.
D'abord les titres de ce journal. Le chef de l'État poursuit sa visite de travail dans la province de La Tchopo. Sur place, Félix Tshisekedi va présider tout à l'heure les conseils des ministres de ce vendredi 25 octobre. Hier jeudi, il s'est recueilli au cimetière du Génocoste où reposent les victimes de la guerre des six jours. Reprise partielle des cours depuis lundi dans certaines écoles primaires publiques de Kinshasa. La grève poursuit son cours dans d'autres écoles, malgré les appels des délégués du syndicat des enseignants du Congo au bon sens. Nos reporters ont fait le tour de quelques écoles. Notre invité est le professeur Jacques Ndjoli, rapporteur de l'Assemblée nationale. Dans un entretien avec Radio Kapi, il revient sur les dossiers 513 députés alignés au budget 2025 et sur d'autres questions cruciales du pays. Bienvenue à ce journal. Le Conseil des ministres de ce vendredi 25 octobre 2024 va se tenir à Kisangani. Il sera, vous l'avez certainement compris, présidé par le chef de l'État qui séjourne sur place depuis mercredi. Le chef de l'État va aussi inaugurer, toujours ce vendredi, l'aérogare de l'aéroport de Bambgoka. Hier jeudi, au deuxième jour de sa visite de travail à Kisangani, Félix Tshisekedi s'est rendu au stade Lumumba pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation en cours. Mais auparavant, il s'est recueilli au cimetière du Génocoste où reposent les victimes de la guerre des six jours. Au retour de ces sites historiques, il a effectué une visite dans les installations du Fonds des réparations et indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. À cette occasion, il a remis un chèque à l'Église catholique qui avait aussi subi des affres de la guerre des six jours à Kisangani. Monseigneur Léonard Ndjadi Ndjate s'est dit satisfait de ces gestes. Un reportage de Jacques Moukonkole.
En recevant ce document pour le retrait d'une somme de 2 500 000 dollars américains, Monseigneur Léonard Ndjadi Ndjate n'a pas caché sa satisfaction et ses remerciements à l'égard du Frivao, du ministre de la Justice ainsi qu'au chef de l'État. Selon lui, cette somme est une première tranche des 4 millions sollicités pour les dommages que l'Église catholique a subis pendant la guerre de six jours. Nos écoles, nos paroisses, nos communautés ont été endommagées, a-t-il déclaré. Il a émis le vœu de voir le Frivao poursuivre ses opérations pour l'indemnisation de toutes les vraies victimes. Ainsi, leurs larmes seront essuyées, a-t-il renchéri. Pour sa part, le coordonnateur intérimaire de cet établissement public a révélé qu'en vue de permettre aux victimes certifiées de percevoir rapidement leur indemnisation, il a obtenu de la Rawbank l'ouverture d'un guichet dans ses installations. Chansar Borokola appelle donc les victimes dont les noms ne sont pas encore affichés à la patience. Il a remercié le chef de l'État pour s'être rendu dans ces lieux, signe de l'attention qu'il accorde au Frivao, une institution qu'il a créée afin de prendre en charge les questions relatives à l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda dans la Grande Orientale. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, les travaux du Forum régional des jeunes venus des 5 États membres de l'EAC se sont clôturés ce jeudi à Goma. Durant 3 jours, ces jeunes ont cogité autour des questions de paix, sécurité et cohabitation pacifique à la lumière des résolutions 25, 50, 13, 25 et 24, 75 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Des recommandations et résolutions reflétant la volonté de ces jeunes ont marqué la fin de ces forums. Le vice-président du Conseil national de la jeunesse a à cette occasion encouragé la jeunesse de la zone de la communauté économique de l'Est de l'Afrique à œuvrer pour la consolidation de la paix dans la sous-région. Nathanaël Atip Katamea, dans ses propos recueillis par Chris Mukand.
La résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaît exactement le rôle que doit jouer le jeune dans le processus de paix, dans le maintien de paix, la consolidation et la pérennisation de paix. Et ces jeunes, pour qu'ils jouent effectivement ces rôles, ont besoin d'échanges d'expérience, ont besoin de palper du doigt les défis qui nous guettent et comment nous pouvons les affronter. Donc je reste convaincu que pendant ces 3 jours, de la manière dont nous avons réfléchi, sûrement chacun ce qui le concerne dans son pays sera un véritable ambassadeur de la paix et pourra porter haut le problème de la RDC dans son pays. J'appelle à la jeunesse, à vous qui êtes recrutés dans les mouvements rebelles, vous devez vous désolidariser. à vous qui êtes utilisés comme des traîtres, vous devez laisser de jouer un rôle négatif. Soyez nos acteurs des réconciliations, de vivre ensemble. Écartons tout ce qui nous divise. Parce qu'aujourd'hui, le monde est un village. Et nous voulons vraiment que toutes les communautés comprennent que les méfiances, les divisions nous éloignent les uns aux autres. Et donc, nous devons choisir la paix et rien que la paix.
Direction les Maniema où une marche pacifique des conseillers communaux réclamant leur bonne prise en charge par les gouvernements a été dispersée par la police à l'aide des gaz lacrymogènes. L'objectif de cette marche, selon les organisateurs, était d'attirer l'attention des autorités sur leur situation. Selon eux, depuis qu'ils ont été élus en décembre 2023, ils n'ont perçu aucun rond en guise de salaire ou des frais de fonctionnement. On écoute Witane Nekubali Hervé, président du collectif des conseillers communaux élus de la ville de Kindu, au micro de Florence Kizalunga.
Les conseillers communaux sont abandonnés à leur triste sort. Il s'est à démontrer que ça fait 10 mois depuis que les conseillers communaux ont été élus, mais hélas, ils n'ont jamais bénéficié même un franc congolais pour le fonctionnement, l'installation et moins encore leurs émoluments. La situation de méfiance des conseillers communaux par les bourgmestres nommés et les refus de contrôle de leur gestion fait couler l'encre et le salive. Le silence des autorités politico-administratives laisse croire à ces élus qu'il y aurait une complicité. C'est ainsi que les conseillers communaux élus de la ville de Kindu réclament ce qui suit. L'organisation des élections des bourgmestres et des conseillers urbains dans un bref délai. La prise en charge des conseillers communaux, c'est-à-dire le paiement de leurs émoluments, le frais de fonctionnement et frais d'installation. La mise en application télégramme du VPM intérieur du 7 septembre 2024 par le gouverneur de la province à l'Assemblée provinciale du Maniema de s'impliquer pour que le gouvernement provincial exécute le télégramme du VPM intérieur CIO cité en souffrance.
À Kinshasa, je le disais au sommaire, les cours ont partiellement repris depuis lundi dans certaines écoles primaires publiques. Dans d'autres, c'est les statu quo. La grève poursuit son cours. Cela malgré les appels des délégués du syndicat des enseignants du Congo, SIECO, reçus samedi par le président de l'Assemblée nationale et aussi de certaines coordinations des écoles conventionnées. John Tibouaboua et Miradine Fouengi, reportage.
Là où les cours ont repris, c'est 2 ou 3 qui se donnent par jour, au lieu des 6 habituels. La motivation n'est pas toujours au rendez-vous, affirment les enseignants. Ils disent attendre plus du gouvernement. C'est le cas de P. Saint-Tarsis Akimboala à Mongafula. Un enseignant explique les raisons de la reprise.
Les coordinateurs avaient appelé les chefs d'établissement pour qu'ils reprennent les cours. Alors, c'est par là les chefs d'établissement sont venus sensibiliser les enseignants pour prise de conscience de nos enfants qui sont en train de souffrir pour ne pas risquer l'année.
Raphaël de la 6e primaire parle de ses leçons de la veille.
Hier, nous avons étudié les maths numération, opération et les français grammaire.
Au EP 1 jusqu'à 6 en Giringiri, les cours ont aussi repris en raison des 2 heures par jour. Les écoles conventionnées sont protégées par leur tutelle. Mais nous, de l'État, nous obéissons au mot d'ordre de la première ministre, mais le cœur n'y est pas, nous a dit une enseignante sur place. Dans d'autres, comme les écoles primaires Bolingani et Ango Ango à Bandal, la grève se poursuit. Là, certains parents gardent désormais leurs enfants à la maison.
J'ai vu une étude de l'envoi. Parce qu'il part pour rentrer, il n'étudie pas.
Certains enseignants disent attendre les mots d'ordre de leur assemblée générale prévue samedi.
Entre-temps, la synergie des syndicats de l'éducation nationale de la ville de Beni, en Nord Kivu, évalue la reprise des cours à 50% dans les écoles publiques pour la journée du mardi 22 octobre. Selon Ghislain Paloukoubambiri-Kiré, les porte-parole de cette synergie, cette situation s'explique notamment par le manque d'informations chez la plupart des enseignants. Il estime que d'ici à la fin de la semaine, la reprise sera effective après la diffusion complète de l'information auprès des enseignants qui ne sont pas encore revenus en classe. Ghislain Paloukoubambiri-Kiré s'est exprimé au micro d'André Kitenge.
En répondant à l'appel au niveau national de la synergie des syndicats. En fait, à Ville de Beni, les enseignants n'ont pas répondu favorablement à l'appel de nos syndicalistes nationaux et je peux estimer la reprise à au moins 40%. Et cette situation est justifiée par le fait que beaucoup d'enseignants n'avaient pas suivi les formations au niveau national. Alors, nous sommes en train de relayer cette formation pour que même les enseignants qui sont dans les faits très fort. Ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre les médias locaux et nationaux, d'avoir les formations. Et c'est pourquoi, pour cette journée maintenant de mardi, donc la deuxième journée, nous sommes à presque 50%. Espérons que vers la fin de la semaine, le mot d'ordre de nos syndicalistes nationaux sera en fait respecté à 100%. Si nous constatons qu'il n'y aura pas d'avancée, nous avons la possibilité de gréver encore pour pousser notre employeur de répondre à nos revendications.
Dès la ville, rendons-nous dans le territoire de Beni, toujours au nord Kivu. Les activités scolaires ont été suspendues mercredi dans près de 10 écoles relevant de l'antenne de la Direction nationale des contrôles de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires d'Inakope et d'Eringeti. C'est à environ 50 km de la ville de Beni. Le chef d'établissement proteste contre les retards dans l'expédition des dossiers des enseignants qu'ils attribue au chef d'antenne. Ces derniers contactés rejettent les accusations et dénoncent plutôt une manipulation visant à couvrir un recensement frauduleux d'enseignants en quête de mécanisation. Restons au nord Kivu, à Butembo. Une trentaine de filles, membres des différentes associations locales, ont été sensibilisées mardi à la gestion financière rationnelle. Au cours de cette séance organisée par l'ONG Femmes Leaders pour les progrès de la jeune fille, FELPJF, les participants ont été incités à avoir l'esprit d'épargne et d'éviter des dépenses inutiles. Liliane Moussavouli, la coordonnatrice de cette organisation féminine basée à Butembo, explique les objectifs de cette sensibilisation au téléphone de Grévis Saloum.
Nous avons constaté que dans la plupart des cas, les jeunes filles ne savent pas gérer le peu d'argent qu'elles gagnent. Et d'autres filles qui vont même jusqu'à avoir des besoins qui sont élevés par rapport même à leur revenu. Une femme qui gagne 20 dollars, mais qui va avoir des dépenses de 50 dollars chaque mois. Et là, automatiquement, elle va entrer même dans des dettes. Tout simplement, peut-être parce qu'elle a vu son ami acheter un habit de 50 dollars. Et elle aussi va faire de son mieux pour avoir ces mêmes habits là. Elle va se chercher d'autres voies pour voir de quelle manière combler les vides là, comment trouver les 30 dollars pour répondre à ce besoin de 50 dollars. C'est grave de fille, quand elle va se donner à la prostitution, au vagabondage sexuel parce qu'elle n'a pas su gérer le peu d'argent qu'elle gagne ou adapter ses besoins par rapport à ses revenus, c'est vraiment un problème. Alors nous avons pensé que les jeunes filles, nous pouvons déjà les aider à avoir cet esprit-là, de faire même de l'épargne et que la jeune fille comprenne que j'ai gagné 20 dollars aujourd'hui, je peux consommer 10 ou 15 dollars, les 5 dollars je peux garder, ça va m'aider demain ou alors après 5 mois, après 6 mois, je peux réaliser 100 dollars et puis ça peut faire un capital, je peux commencer un business avec cet argent.
En province du Maniema, les femmes rurales plaident pour l'aménagement des routes des dessertes agricoles. Ce plaidoyer a été adressé au vice-gouverneur le mercredi à Katako, chefferie située à 7 km de Kindu, en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale commémorée le 15 octobre de chaque année. La cérémonie a connu la participation active de toute la communauté. Surprise qu'une telle activité se tienne dans son milieu. Pour la chef des divisions du genre famille et enfants, c'était une manière d'encourager les membres de cette communauté dans leurs activités journalières. Florence Kizalunga, reportage.
Pour la chef de division du genre, célébrer la Journée internationale de la femme rurale au sein de cette communauté est une occasion d'honorer cette catégorie de femmes qui abat un travail qui, malheureusement, reste méconnu. C'est aussi une façon de sensibiliser la femme rurale sur son autonomisation. Kapunga Sifayao.
C'est un jour où on doit se mettre à côté de la femme rurale pour renforcer ses capacités, pour l'aider à comprendre ses difficultés et arriver à chercher les voies et moyens pour que cette femme puisse produire davantage et nourrir davantage la communauté. Sans des infrastructures routières, qu'est-ce que la femme peut faire avec toute la nourriture qu'elle est en train de cultiver? En tout cas, c'est un besoin primordial, le besoin d'aménager des routes et des dessertes agricoles.
Conscient de l'apport de la femme rurale dans la société, le vice-gouverneur, au nom du gouvernement provincial, lui fait cette promesse. Katisamba Makubuli. Nous sommes venus travailler. La taxe conventionnelle qu'on a créé, c'est pour nous permettre d'ouvrir les routes des dessertes agricoles. Par la grâce de Dieu, au mois de janvier, tout ira bien. Rappelons que cette journée a été commémorée sous le thème « La femme rurale, mère nourricière de la nation ». Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Sans plus tarder, rendons-nous au Congo central. L'Organisation pour le bien-être et la santé des Congolais est basée à Kimpese dans le territoire de Songololo qui offre un suivi médical gratuit aux personnes souffrant du diabète, plaide auprès du gouvernement et autres partenaires techniques pour un financement. Selon Dr. Dieu Merci Mouditou, responsable de cette structure, cela lui permettra d'étendre ses activités et d'offrir une meilleure prise en charge aux diabétiques de ces coins du pays. Dans son plaidoyer lancé à l'issue de son rendez-vous hebdomadaire avec le malade, le docteur Dieu Merci Mouditou a indiqué que le travail qu'il abat, en dépit de ses maigres moyens financiers, aide le diabétique à éviter les complications du diabète. Suivez ces reportages.
C'est à l'espace Gare Centrale au quartier 4 Madiadia dans la cité de Kimpese où l'Organisation pour le bien-être et la santé des Congolais reçoit les malades de diabète. Chaque samedi, depuis 2019, plus de 500 diabétiques jeunes et vieux s'y réunissent. À chaque rendez-vous, cette ONG offre aux malades un check-up gratuit, un réajustement de la prise en charge et rarement de l'insuline. Elle sensibilise aussi les malades sur les plans diététiques afin de les aider à se maintenir en forme. Pour poursuivre ses activités, l'Organisation pour le bien-être de la santé des Congolais plaide pour un appui financier. Docteur Dieu Merci Mouditou en est le responsable.
Nous entamons pratiquement 5 ans pour gérer ces diabétiques qui sont au nombre de 520. Mais il y a un sérieux problème de médicaments et des insulines. Même du côté bandelette, ça nous pose encore des problèmes. Donc si le gouvernement pouvait comprendre, si les personnes de bonne volonté pouvaient comprendre à ce que nous avions besoin de leur accompagnement, ça sera vraiment mieux parce que si aujourd'hui nous baissons les bras et ces diabétiques vont mourir.
En prélude de la Journée mondiale du diabète célébrée le 14 novembre, cette structure organise ce 9 novembre une grande sensibilisation à travers les territoires de Songololo et entend tester plus de 2000 personnes. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La Journée mondiale de la poliomyélite est célébrée le 24 octobre. Cet événement vise à renforcer les efforts pour éliminer cette maladie. En Afrique, des progrès significatifs ont été réalisés. Les autorités sanitaires ont annoncé que seuls 134 nouveaux cas avaient été signalés en 2024 dans plusieurs pays, dont les Burkina Faso et les Niger.
L'invité.
Affaire 513 députés alignés au budget 2025, fonds spécial d'intervention, détournement des fonds constatés dans le cadre de l'examen de la reddition des comptes 2023 ainsi que le débat sur la révision constitutionnelle. Ces questions ont fait l'objet d'un échange entre Radio Capi et les rapporteurs de l'Assemblée nationale. Professeur Jacques Djoli est donc l'invité de Radio Capi ce matin. Il est interrogé par Michel Kifindangoy.
Professeur Jacques Djoli, bonjour.
Bonjour monsieur Michel Kifindangoy.
L'Assemblée nationale a aligné 513 députés au lieu de 500. Qu'en est-il au juste?
D'abord, l'Assemblée nationale n'a pas aligné, parce que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui établit le projet de loi des finances, c'est le gouvernement. Mais puisqu'on en parle, l'Assemblée compte effectivement 500 députés. Tous les anciens présidents de l'Assemblée sont renouvelés. Donc, il faut le reprendre dans cette liste. Donc, il y a les cas des anciens présidents qu'il faut prendre en compte, les cas des députés qui décèdent. Et troisièmement, nous avons été très souvent condamnés devant les organisations internationales parlementaires à payer pendant toute une législature un certain nombre de députés. Alors, toutes ces dépenses allaient, je crois, dans la rubrique fonctionnement. Mais cette fois, je crois que le gouvernement a voulu glisser pour éviter chaque fois des échanges avec l'Assemblée qui doit bénéficier de sa dotation.
Vous savez que Crefdel dénonce plusieurs millions de dollars mis à la disposition de l'Assemblée nationale et du Sénat comme frais d'intervention et on ne sait pas clairement à quoi ça sert. Ne pouviez-vous pas utiliser cette enveloppe pour résoudre les autres problèmes?
L'Assemblée, c'est un organe collégial constitué de 500 députés qui représentent l'ensemble de la République. Lorsqu'il y a un naufrage à Minova, il faut envoyer les députés là-bas parce que ce sont leurs élus qui sont morts. Aujourd'hui, le chef de l'État est à Kisangani. Tous les élus de la Grande Orientale sont à Kisangani et ils y sont depuis pratiquement 3-4 jours. Au frais de qui? De l'Assemblée.
Mais tout l'enjeu, professeur, réside au niveau de la mise en œuvre fidèle du budget. Nous avons assisté à l'examen du projet de loi portant reddition des comptes. Plus de 50% des dépenses en urgence, et c'est environ 8 milliards de dollars qui ne sont pas tracés aujourd'hui. Il y a des routes qui étaient prévues être construites qui n'ont jamais été construites. Et après, on n'a pas vu un seul gouvernant être sanctionné. C'est que le Parlement, quelque part, n'a pas fait son travail.
Dire que le Parlement n'a pas fait son travail, ce n'est pas vrai, M. Michel.
C'est lui l'autorité budgétaire pour contrôler aussi la mise en œuvre du budget.
Ceux qui ont dénoncé ces dépassements, ce sont les députés, de manière démocratique, dans un débat ouvert.
Ce que le peuple attend, c'est la sanction et surtout la restitution des fonds de la République.
Restitution, on y arrivera, mais ce n'est pas le rôle de l'Assemblée. Pour le moment, les sanctions et autres, mais attendons le rapport de la commission économico-financière.
Comment l'Assemblée nationale compte-t-elle faire réduire les dépenses courantes dans le pays si elle-même tombe dans le piège? Vous avez pris vous-même l'exemple du voyage du chef de l'État à Kisangani. Est-ce que cet argent ne pouvait pas servir, par exemple, à construire un pont dans la province de la Tchopo?
C'est un problème de vision. Vous savez ce qui se passe à la Tchopo aujourd'hui, entre les Mbole et les Lingola? Une situation d'insécurité assez particulière. Vous vous imaginez un député de Mokoto qui apprend qu'il y a eu confrontation entre les Pygmées et le Bantou et on a brûlé tous les villages, il y a des morts qu'il faut aller enterrer et il va aller comment? Il faut que le Parlement l'accompagne.
Et pourquoi ne pas renforcer l'administration territoriale, les entités décentralisées et les provinces pour s'occuper de ces problèmes locaux et provinciaux au lieu de tout concentrer sur les institutions de Kinshasa?
Mais c'est ça le but de toute cette architecture ou de cette décentralisation qui est plus ou moins inachevée. Je prends les cas. Je suis allé à Béfalé. Je suis arrivé à Béfalé. Il faut que je me fasse accompagner par le comité provincial de sécurité. La province n'a pas de ressources. C'est donc l'Assemblée qui doit prendre en charge, y compris parfois, excusez-moi de vous le dire, le gouverneur et tous les comités.
Pensez-vous, si on respectait la Constitution scrupuleusement et que la retenue à la source de 40% était respectée, vous auriez ces problèmes tels que vous les décriviez aujourd'hui?
La question de la retenue à la source, c'est une question qui doit être examinée sereinement. Parce qu'au-delà de la retenue à la source, qui est constitutionnelle, il y a la question de la faisabilité.
Professeur Jacques Joly, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal, mis en onde par Billy Landry Betou, supervisé et coordonné par Pélé Kipé Lamondo, au micro Patience Ngalula Mbombo. Merci de l'avoir suivi.